Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Merci, les journées sont longues aux Imaginales, on ne sait plus le jour et la nuit. Merci à tous d'être venus donc ce midi. On va parler de grosses bêtes avec des dents et des griffes. Enfin, en tout cas, on va voir si toutes leurs grosses bêtes ont des dents et des griffes. Avec autour de la table Marie Brennan, avec pour traductrice Hélène Bury, qui va nous assurer donc la traduction. Marie Brennan, vous avez forcément lu les mémoires de Lady Trent, avec 4 tomes, désormais, aux éditions La Talente. On verra justement comment est-ce que elle envisage, elle, ses dragons. À ses côtés, Karina Rosenfeld, alors grande bibliographie maintenant, avec notamment la quête des livres mondes qui vient de ressortir. Mais on parlera peut-être plutôt de l'héritier des Dragonis. Hein, et puis, il y a aussi Lucie et les dragons, un vieux roman. Donc toi aussi, tu travailles un petit peu sur les dragons, on pourra discuter ensemble. Jean-Luc Bizien, juste à côté, auteur de polar, d'imaginaire, de jeunesse, et notamment d'un roman qui s'appelle L'Appel du Dragon. Il y a un indice dans le titre par rapport à Table Ronde. On en parlera ensemble. Et puis Anne Wagner, qui est à mes côtés, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, qui travaille notamment sur la vie des saints au Moyen-Âge et qui travaille aussi sur la représentation de la forêt du côté médiéval. Donc on parlera des dragons et notamment des dragons dans la vie des saints. J'aimerais d'abord commencer peut-être par un tour de table pour vous demander un petit peu quels sont, vous, les dragons qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué avant d'écrire. Est-ce que ce sont plutôt des dragons d'inspiration occidentale ou orientale? Comment est-ce que vous les avez envisagés? Marie Brennan.
I think probably the earliest dragon that really stuck in my memory, probably not the first one I encountered, but Disney's Sleeping Beauty, the animated movie, Maleficent turning into a dragon at the end, which is why she is the best Disney villain. And yeah, I think that one stuck with me a bit. I read Anne McCaffrey's Pern books at a fairly young age, and so the idea of a dragon that could teleport me places sounded very nice. Encountered a lot of dragons throughout, but then for the works that I was writing, drew a lot of inspiration from the folklore both of Europe and of Asia and other parts of the world, because there are creatures like dragons in the folklore of many different cultures. So I kind of combined that with some information drawn from real animals and used that to make my dragons.
Alors, je pense que le dragon qui m'a le plus marqué, alors c'est peut-être pas le premier que j'ai rencontré dans ma vie, mais c'était celui de La Belle au Bois Dormant, quand Maléfique se transforme en dragon. Et c'est pour ça que c'est la meilleure méchante de Disney de tous les temps. Après, j'ai aussi lu McCaffrey, et l'idée qu'un dragon puisse me permettre de me téléporter m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai vraiment rencontré beaucoup de dragons. Après, pour ce qui m'a vraiment inspirée pour mes romans à moi, je me suis inspirée principalement du folklore, mais à la fois européen et asiatique, parce que finalement, des dragons, on en retrouve un peu partout. Et j'ai aussi rajouté des connaissances d'animaux réels qui existent pour créer mes dragons à moi.
Karina?
Moi aussi, je crois que mon premier dragon, c'était dans Disney, mais c'était Peter et Elliot le dragon. Quand j'étais toute gamine, j'adorais ce film, c'était génial. Devenir amie avec un dragon, waouh. Parce que moi, j'aimais pas les histoires où on tuait les dragons. Ça me plaît pas, de toujours que ce soit des bêtes qu'il faille tuer. Et moi, au contraire, j'avais envie d'être amie avec ce genre de créatures, pouvoir m'envoler sur leur dos. Et donc, Peter et Elliot le dragon, c'était vraiment le film où, d'un seul coup, ça y est, on avait quelqu'un qui devenait ami avec un gentil dragon. Donc ça, c'est vraiment... Et puis d'ailleurs, mon personnage dans L'Héritier des Draconis s'appelle Elliot, et c'est pas un hasard. Voilà, le petit clin d'œil subtil. Et puis après aussi, McCaffrey, des romans, des choses que j'ai attrapées au vol au fil de mes lectures et de ce que j'ai découvert en série, en film, au fil du temps. Mais c'est vrai que c'est une créature que j'adore. Et souvent, quand je fais des rencontres scolaires, on me demande pourquoi les dragons. Je dis, si ça existait vraiment, je pense que j'aurais un élevage de dragons, ou je vivrais parmi les dragons, ça me plairait bien. Voilà. Donc c'est vraiment une créature que j'aime par son côté imaginaire et par tout ce qu'il peut représenter dans plein de cultures différentes. Ouais.
C'est un peu plus gros qu'un chat, mais...
Oui, mais voilà. Et c'est vrai que souvent, moi, j'aime bien le dessin animé dragon, How to Train Your Dragon et Croque-Mou, on dirait un gros chat, hein. Donc pour moi c'est la représentation que j'aime bien du dragon aussi, que je peux caresser, qui est gentil, qui ronronne, voilà, c'est chouette.
Oui. Jean-Luc,
l'avantage du dragon, c'est contrairement au chat, il peut protéger ta maison. Alors moi ça va être générationnel. Oui, il y a eu le dragon de Disney, mais alors pas, peut-être pas à la sortie, mais pas loin. Il y a eu ensuite la découverte du monde de Moorcock, Elric, et donc un rapport différent avec ces animaux. Je crois que l'un de ceux qui m'a le plus marqué et qu'on ne fait finalement que, qu'entrevoir, alors qu'on en parle dans quasiment toute l'œuvre, c'est celui de Terre-Mère. Mais ce qui me travaillait depuis l'enfance, c'est le dragon occidental me dérangeait en fait. Moi, je suis né en Asie, j'ai des origines vietnamiennes. Et en Asie, le dragon n'est pas forcément une source de mal, c'est pas forcément une menace. Il y a toutes sortes de dragons et c'est surtout quelque chose d'extrêmement aérien, léger. On en est venu, mais vous allez sans doute me corriger après, à cette image assez massive d'animal dangereux, de vraies menaces, de choses énormes. Voué essentiellement à la destruction, alors que dans l'imaginaire qu'on avait, mon frère et moi, en étant gamins, c'était des contes, des choses comme ça, des légendes merveilleuses, et effectivement, on avait envie de comprendre, de s'en approcher, d'établir un contact. Voilà. J'ai corrigé le tir après avec les autres dragons précités.
Si.
Anne ?
Donc, je pense que le dragon dans les vides saints, le premier auquel on pense, c'est le dragon de Saint-Georges. Donc, effectivement, c'est un dragon qu'on tue. C'est un dragon qui est maléfique et qu'il faut éliminer puisqu'il est en train de dévorer toutes les jeunes femmes de la cité. C'est cependant pas le seul dragon des vides saints. Ils sont jamais bien gentils, mais ils sont pas forcément négatifs parce qu'en fait, dans beaucoup de vides saints, comme par exemple la ville de Saint-Marcel ou la ville de Saint-Clément, on voit que le dragon, c'est plutôt les forces de la nature. Et qu'il s'agit de les dominer, de les dompter, éventuellement de les repousser hors de la cité. Et, hein, c'est ce que fait Saint-Marcel de Paris, mais pas pour l'éliminer, mais pour le confiner à un espace sauvage, un espace justement forestier ou un espace de lacustre. Et c'est un aspect qui est assez intéressant parce que là, on voit quand même aussi réémerger tout un tas de traditions qui sont indo-européennes, hein, avec le dragon justement qui retient les eaux et qu'il faut vaincre. Pour libérer la nature. Donc il y a des aspects peut-être plus ambigus, hein, que simplement Saint-Georges et le dragon. Voilà.
Sur cet aspect justement, le dragon qui représente autre chose, est-ce que ça a joué dans vos romans? Et puis après on reviendra véritablement à vos romans, mais quand vous avez imaginé vos dragons, est-ce que vous l'avez imaginé aussi comme un symbole ou simplement comme un personnage à part entière de vos histoires? Qui veut répondre? Eh, Marie.
I try not to think directly in terms of making things symbols because I feel like if I approach it from that direction, I wind up telling a kind of preachy story. It's a little bit too much hitting the reader over the head with the idea. So it's not impossible to find symbolism in what I'm writing about, but that's not what I'm thinking of when I write it. With the memoirs, what definitely ended up cropping up throughout it, because the dragons there are not these magical immortal creatures, they are essentially different kinds of very impressive wild animal with some characteristics that defy physics a little bit. It meant that a lot of what I wound up saying about them was, in a way, commentary on how we relate to the natural world. It was things about where are they found, how do humans relate with them. In the very first book, you have the people in the mountains who, you know, they know about dragons. They are not exactly impressed by them because to them, dragons are the things that eat their sheep. Like, we would do better without them. That doesn't mean they want them to go extinct, but they would like their sheep to be safe. And during the course of the series, there do start being threats that I think do kind of parallel some of our problems in the real world with animal extinction and so on. But I didn't set out to say, I am going to write a commentary on animal extinction. It's just that was what was happening during the course of the story because of the plot that I was telling.
Alors moi, je ne réfléchis pas en termes de symbole, parce que j'ai vraiment l'impression que si je pars sur cette idée-là, je vais prêcher quelque chose et un peu taper sur la tête du lecteur pour lui faire rentrer une idée dans la tête. Mais on peut quand même y trouver un symbole quand on lit le roman. Dans les mémoires de Lady Trent, les dragons ne sont... sont finalement des animaux comme les autres, entre guillemets, des animaux sauvages, qui certes défient un peu les lois de la physique, mais ça reste des animaux. Et quand je parle des dragons, c'est un peu, ça représente un peu notre lien à la nature. Donc dans le premier roman, par exemple, il y a tout un peuple qui vit dans les montagnes, et donc ils sont conscients de l'existence des dragons. Les dragons les impressionnent pas vraiment. Le seul problème, c'est que les dragons mangent leurs moutons. Donc forcément, ils n'ont pas forcément envie d'éradiquer les dragons, mais ça n'empêche qu'ils aimeraient bien que leurs moutons restent en vie. Donc ça crée un petit problème, et c'est ça peut rappeler quand même les menaces qui existent dans notre monde, l'extinction des animaux. Mais j'ai pas écrit le roman dans cet esprit-là, en me disant faut absolument que je fasse passer un message. C'est juste que avec l'histoire, ça s'est dévoilé comme ça.
Pareil pour toi, Karina.
Non, moi les dragons, enfin c'est un peu particulier parce que les dragons vivent pas à côté des hommes. Moi c'est des gens qui ont la capacité de se transformer en dragon. Donc c'est une extension de l'humain en quelque sorte dans mon histoire, et j'ai recréé un bestiaire complètement avec des dragons, avec des noms et des pouvoirs particuliers. Parce que l'idée, alors c'est pour la jeunesse, hein, c'est du 9-12 ans, donc c'est un garçon dans le premier tome qui a 10 ans et qui découvre ce pouvoir-là, qu'il est l'héritier d'un pouvoir particulier, et qu'en tout cas dans ce tome il est le dernier, donc il a une mission, voilà, et donc il découvre ce pouvoir qu'il a de se transformer en dragon. Et en fait l'idée c'est qu'ils ont des statuettes, et quand il regarde la statuette du dragon, il se transforme en dragon, et lui il redevient une petite statuette de petit garçon. Il ne faut pas qu'il la perde pour pouvoir redevenir lui-même. Voilà, donc en fait pour moi le dragon là c'est une extension, c'est un gamin qui d'un seul coup se retrouve doté de pouvoirs assez forts, parce qu'il devient énorme. Voilà. Mais alors par contre, j'utilise des dragons, j'en invente hein, bien sûr, qui sont aussi bien marins, aériens, légers, petits, gros. Voilà, c'est vraiment, je m'amuse bien à les recréer, les imaginer un peu à ma guise, parce que l'idée c'est qu'ils puissent prendre celui qui lui servira le mieux en fonction d'une situation particulière qu'il va rencontrer au cours de l'histoire. Donc pour moi, c'est vraiment partir dans un imaginaire, il n'y a pas de symbolique, c'est un jeu en quelque sorte, hein. C'est un jeu de métamorphose entre l'humain et le dragon.
Donc on a des métamorphoses, juste avant on avait des dragons sous langue un peu scientifique, on en discutera. Comment ils sont tes dragons, et là pour le coup on parle de symboles.
Ouais, alors juste une anecdote, il y a une quinzaine d'années, quand la première version du roman est sortie, j'ai été convié à Bordeaux à une table ronde très impressionnante, où j'étais coincé entre une spécialiste des sciences de l'éducation et un psychanalyste qui avaient lu mon livre et qui en ont parlé et qui m'ont expliqué ce que j'avais dit dedans. Et j'ai eu une expérience ma première expérience de schizophrénie, parce que je le confesse, je ne me suis jamais senti aussi intelligent d'avoir mis tant de choses dans un livre et aussi con de ne pas en avoir eu conscience. Pour le coup, on va parler symbole. Ce dragon-là, il est particulier. D'abord, il n'y a pas des dragons, c'est l'appel du dragon, il n'y en a qu'un seul. Mais pour le coup, je n'ai pas lésiné sur les moyens. C'est, comment vous dire, la terre est un œuf de dragon, et le dragon dort encore dans son œuf. Toute la vie vient de cette créature, les magiciens en tirent leur pouvoir. Seulement, il y a un prix à payer, donc les magiciens sont payés pour de temps en temps aller dans l'œuf, sous la coquille, pour s'assurer qu'il continue de dormir bien au chaud et que voilà, on puisse continuer à vivre. Voilà. Pour le coup, effectivement, mais j'avoue ne pas en avoir eu conscience. Et après, mais c'est là que les origines asiatiques sont ressorties. Oui, le dragon, il était intimement lié à la terre, à l'univers, et voilà. Je parlais pas encore d'écologie à l'époque, mais c'était ça l'idée.
Trois types de dragons différents, Anne. Est-ce qu'on retrouve vraiment des dragons très différents dans la vie des saints ?
Il y a quelques dragons qui sont particuliers. Par exemple, dans la vie de saint Samson de Dol, on se rend compte qu'il y a un dragon qui, en fait, est une espèce de génie du foyer et qui est le défenseur de la famille de Samson du temps où elle est païenne. Évidemment, les choses vont être complètement transformées avec la christianisation. Et bon, là, effectivement, c'est un symbole qui est assez fort. Mais autrement, les dragons, non, on n'a pas vraiment de description de dragons. C'est plutôt, des gros vers, enfin, c'est des gros serpents, on ne voit même pas tellement bien qu'à l'horizon, il n'y a pas de... On ne s'intéresse pas vraiment à ces animaux qui, de toute façon, sont imaginaires et une manifestation de l'imaginaire.
Et sur la fonction des symboles, puisqu'on on parle de symboles, et parfois presque de symboles presque inconscients, quand nos auteurs ici présents ont écrit leur roman, ça vous évoque quelque chose en termes de vie de saint ?
C'est-à-dire qu'en général, ces dragons sont plutôt sympathiques. Dans les vies de saint, comme vous le disiez, en général, ils sont plutôt... Il faut plutôt s'en méfier. Hein. Ou bien c'est des représentations du passé, ou bien c'est des représentations des forces sauvages qu'il faut dompter, ou bien c'est des représentations du mal. Donc c'est assez différent, disons, comme approche dès le départ. Le dragon n'est pas un animal qui est représenté de façon véritablement positive. Évidemment, il y a des éléments qui vont en sens inverse, mais c'est vrai pour tous les animaux, parce que le dragon est un animal... puissant, et donc par exemple sur les armoiries des chevaliers, on voit très souvent des dragons qui sont présentés. L'exemple le plus célèbre étant évidemment Arthur. Donc il y a un imaginaire peut-être chez les laïcs qui serait plus positif à l'égard du dragon, sinon on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on aurait choisi des représentations de soi par ces armoiries, parce que les armoiries c'est la représentation de soi, qui représentent des dragons, ou imaginer que le roi Arthur avait... symbole de la royauté, avait choisi un dragon. Donc effectivement, mais l'Église lutte contre cet aspect des choses, et comme les Vite-Saints sont des reproductions justement de la hiérarchie ecclésiastique, les Vite-Saints prennent le contre-pied de cet aspect positif.
Jean-Luc, dans l'appel du dragon, on le voit pas vraiment, le dragon, tu l'as pas décrit spécifiquement, c'est plus une menace qui pèse.
Ouais, on le devine en fait, et on ne fait que, alors là pour le coup c'était parfaitement conscient, on ne fait que transmettre des légendes et des histoires à son sujet, et les héros qui parviennent à s'enfoncer dans les profondeurs de la terre le distinguent, l'entrevoient, mais ne sont pas directement à son contact. Mais pour en revenir aux représentations des dragons et des saints, je fais peut-être une erreur, mais je crois qu'on retrouve le dragon sur tous les continents, sauf en Afrique, à l'exception du drapeau d'Haïlé Sélassié qui avait récupéré le dragon de Saint-Georges dans ses armoiries. Et c'est assez étonnant de voir un mythe qui a réussi à se promener et donc dont la représentation a marqué toutes les cultures et pratiquement la planète entière.
Anne, quelque chose à rajouter là-dessus ?
Non, oui, effectivement, c'est assez fascinant de rencontrer des dragons, mais effectivement, les dragons, disons, orientaux et occidentaux, sont quand même assez différents, justement, parce que le dragon, tel qu'on se le représente quand même en Occident, par exemple, dans les Vite-Saints, on ne le voit jamais voler. On ne voit jamais de dragon, même quand on se l'imagine, ou dans les Vite-Saints, quand on représente des Vite-Saints illustrés avec un dragon qui a des ailes, le fait qu'il vole n'est pas véritablement un élément important. Ce qui est important, c'est qu'il vit dans une caverne. Donc c'est vraiment l'aspect, disons, plutôt tellurique de la chose qui est mise en évidence.
Marie Brennan, votre approche des dragons, elle est presque plus scientifique. On se souvient bien de vos couvertures avec des coupes comme une histoire véritablement naturelle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le coup ? Qu'est-ce que ça vous apportait de mettre en scène des scientifiques allant à la découverte des dragons ?
It was from the inspirations that gave me the idea of it in the first place. I had a wall calendar that was sort of a like field guide to different types of dragons around the world, done in a kind of fake Victorian style. And there was also a role-playing game book that had like anatomical drawings of dragons and descriptions of their life cycle. So the actual original form of the idea was I could run a Dungeons & Dragons game where instead of killing the dragons and stealing their treasure, you were trying to study them. I realized very rapidly that the rules of the game were not made for that and it wouldn't work very well, but it might work as a novel. And so... It was just something that I hadn't really seen a lot of before. Obviously, there were these things that had given me the idea, but as novels, I hadn't seen much that was, let's go look at all the different species of dragons and how they behave and how people relate to them. And it really just drew me in, the idea of being able to send my character around the world to many different places and different environments and come up with everything from little tiny kind of insect-sized like firefly type dragons up to the kind of thing that you tend to think of when you hear the word of these very, very large winged predators. Not all of them breathing fire, because not all dragons around the world do that kind of thing. But it fit well into the Victorian period and that feeling of discovery. And it was an interesting way to make kind of a hybrid of fantasy and science fiction, because you see dragons in a novel, it almost by default becomes fantasy, except I have a character actually doing science, which is more science fictional than a lot of science fiction.
Alors en fait, mon inspiration pour le roman, j'avais notamment un calendrier sur mon mur qui représentait les dragons à travers le monde dans un style un petit peu victorien. Donc il y avait ça d'une part, et puis après un livre sur un jeu de rôle qui parlait de dragons également un peu plus d'un point de vue anatomique. Et après je me suis dit, j'ai qu'à faire un jeu du genre Dungeons and Dragons, mais où plutôt que d'aller voler les trésors des dragons, on irait les étudier. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'en jeu, ça ne fonctionnerait absolument pas. Par contre, je me suis dit que pour une nouvelle, ça pourrait marcher. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas beaucoup de romans qui parlaient des dragons de cette façon-là. Et je me suis dit que je pourrais écrire un roman où on étudierait les différentes espèces de dragons et leurs relations avec les humains. Du coup, mon personnage principal voyage à travers le monde pour aller étudier les dragons, et elle va étudier des dragons qui vont du dragon qui est de la taille d'un insecte, un tout petit dragon, à l'image qu'on a généralement des dragons, la grosse bête avec des ailes. Alors tous ne peuvent pas produire du feu, parce que c'est pas le cas dans toutes les légendes, mais du coup je me suis dit que ça fonctionnerait bien à l'époque victorienne. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire un livre hybride fantasy-science-fiction, parce que quand on pense dragon, tout de suite, on pense fantasy, mais comme moi, mon personnage principal est une scientifique, la science en général, c'est plutôt SF, donc ça m'intéressait de mélanger les deux genres.
Est-ce que tu peux nous parler de Draconia ? Alors toi, ta vision de ce monde spécialement avec des dragons, et comment ils sont les tiens ?
Alors moi, c'est un peu ce que j'appelle mon Narnia, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va dans un monde un peu magique, comme Lucie rentre à Narnia au fond de l'armoire magique. Et donc il a été élevé sur Terre, il est orphelin, et il a des yeux qui prennent, quand il s'énerve, il y a des flammes qui apparaissent dans ses yeux, et c'est pas très rassurant pour les gens qui l'entourent. Et un jour, il est transporté dans ce monde, et là il découvre qu'il est l'héritier des Draconis. Donc les Draconis, c'est une famille qui a la capacité de se transformer en dragon. Et il est le dernier, ses parents ont été tués. Parce qu'en fait, pour pouvoir se transformer en dragon, il faut ses statuettes. C'est pas juste où je décide et puis tout que je me transforme. Il faut avoir ses statuettes. Donc ils ont des sacoches avec des petits casiers dans lesquels ils peuvent ranger leurs petites statuettes. Et toutes les statuettes ont été détruites. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus moyen de se transformer en dragon, sauf une dernière. Et il doit combattre son oncle qui est le jumeau de sa mère, qui a été donc tué par son propre frère. Et lui, en fait, a une expérience. Il a pris plein de statuettes, il les a toutes regardées en même temps, et il est devenu une espèce d'hybride monstrueux avec tous les pouvoirs et les ailes et les têtes de tout plein de dragons différents. Donc c'est rigolo, hein, c'est un peu le psychopathe monstrueux. Voilà. Et Elliot, donc, lui, débarque là, n'est pas du tout au courant de ses origines. Et donc, voilà. Donc c'est une saga en 5 tomes. Donc le premier tome est effectivement plus la raison d'expliquer l'environnement et son pouvoir et pourquoi, l'histoire de sa famille, etc. Et au fur et à mesure, il a un peu cette quête de devoir faire tomber son oncle qui est l'usurpateur du trône, et lui l'héritier légitime. Voilà, donc c'est une saga qui est très amusante à écrire, parce que je peux imaginer ce que je veux. C'est un monde complètement imaginaire. Je m'amuse à inventer des tas de dragons qui sont aussi petits qu'une fourmi ou aussi grands qu'un immeuble, avec des pouvoirs très différents les uns des autres. Là aussi, ils ne crachent pas forcément que du feu. Il y en a qui captent l'électricité des orages grâce à leurs cornes, des choses comme ça. C'est vraiment un jeu pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, allez, j'ai envie d'écrire un truc sur les dragons, et je me lâche, je les invente, je les réinvente, je les manipule. Et il y a toujours un peu c'est vrai que j'aime beaucoup la métamorphose dans plein de mes romans, le thème de la métamorphose est assez présent. Et là, voilà, il peut se métamorphoser en dragon, et c'est aussi le jeu de se dire quel dragon je vais choisir, parce qu'après, évidemment, il y a d'autres statuettes qui vont apparaître. Enfin, il y a toute une histoire. Hein, et c'est très très drôle à écrire. parce que je peux vraiment me balader dans un univers que j'invente complètement et j'ai pas de limite en réalité puisque c'est le mien. Donc,
c'est le reflet de lui-même quelque part.
Oui, oui, oui. Et puis je trouve que c'est aussi tout plein de choses. C'est un enfant qui a pas eu une vie très heureuse dans les premières années de sa vie. Et je pense qu'il y a aussi toute la symbolique de reprendre un pouvoir sur lui, de montrer qu'il peut être plus fort à travers ce dragon. Qui, même quand il redevient humain, lui a donné confiance en lui, lui permet de s'affirmer différemment et de ne plus être une petite victime du méchant de l'école qui l'embête ou des choses comme ça, parce que ben voilà, le dragon lui donne une force qu'il n'avait pas avant. Donc y a tout aussi cette évolution du personnage. En plus, comme c'est en 5 tomes, ça me laisse le temps de le faire évoluer. Il grandit. Dans le premier tome, il est à la veille de ses 10 ans, et là je suis en train d'écrire le 4e, il a 12 ans, donc il a grandi, il a évolué, donc ça lui permet aussi de s'affirmer au fur et à mesure. Donc c'est une chouette exploration du thème du dragon, où je m'amuse bien, voilà, où je me fais mon petit univers et mon petit délire à moi.
Jean-Luc, dans l'appel du dragon, est-ce qu'il y a un côté quête initiatique? Le dragon, c'est aussi celui qui révèle quelque part les personnages principaux?
Oui, parce que c'est la créature invincible, c'est la créature magique par excellence. Mais c'était réjouissant, merci Marie d'avoir parlé de Donjons et Dragons. En fait, moi j'arrive du jeu de rôle, j'ai démarré là-dedans, j'ai découvert ça avec stupéfaction à l'école normale d'instituteurs où le soir on n'avait guère que ça à faire. Je vous raconte ma vie là. Et puis on a vite vu les limites du truc. Alors effectivement, Gary Gygax avait inventé le jeu de rôle, nous permettait de retrouver les sensations qu'on avait gamin quand on lisait les premiers contes de fées, d'en devenir les acteurs, et puis on a commencé à creuser. Et effectivement, au départ, je voulais moi aussi écrire des scénarios ou des choses comme Donjons et Dragons, puis ça va vous paraître très présomptueux, j'ai enlevé tout ce qui me dérangeait. Et j'ai essayé de faire un jeu de rôle atypique qui s'appelle Hurlement, donc qui date de la fin des années 90, soit le dernier siècle du précédent millénaire, il y a prescription. Mais où l'idée, c'était que les humains pouvaient effectivement, certains humains, voir des choses réelles et se projeter dans des créatures et évoluer. Et en fond, il y avait toujours ces dragons. Donc en fait, pour moi, c'est essentiellement le porteur de rêve, celui qui nous permet de nous nourrir de son imaginaire et vers lequel on renvoie des choses. Et du coup, j'ai totalement oublié ta question.
Mais tu as presque répondu. Je parlais de dragon comme quête initiatique, comme oui, révélateur. On y est.
C'est ça. C'est le. Pour moi, c'est la puissance absolue, l'image de. Dans son horreur comme dans ses bienfaits, c'est une espèce de perfection, le dragon. Et donc, les personnages vont soit le combattre, soit tenter de s'en rapprocher, sachant que de toute façon, ils ne l'égaleront jamais. Mais en tout cas, systématiquement, et c'est pour ça que c'est formidable quand on écrit de la fantaisie pour la jeunesse, c'est qu'il y a un côté, effectivement, quête initiatique, le personnage va grandir en s'en approchant ou en s'y opposant. C'est l'éternel dilemme du passage de l'adolescence à la vie adulte avec ce que ça demande de sacrifice, de renoncement, d'envie, d'effort. Voilà.
On retrouve ça dans la vie des saints, Anne. Est-ce que Saint-Georges serait Saint-Georges sans le dragon?
Déjà, Saint-Georges était sans le dragon avant le Xe siècle, puisque c'est une invention occidentale de rajouter le dragon de Saint-Georges. Mais non, mais disons pour la question justement de l'imaginaire très libre par rapport au côté très codifié des vies de saints. Donc les vies de saints, c'est quelque chose qui est où il y a vraiment des codes, où il y a ce qu'on appelle des topos, des lieux communs, des moments attendus dans les vies de saints. Et ça permet aussi de faire passer des messages, parce que je vais vous donner un exemple, c'est la vie justement de Saint-Marcel. Donc Saint-Marcel, c'est l'évêque de Paris, dont on connaît surtout le fait qu'il a chassé le dragon qui infestait la ville de Paris. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce dragon, il est venu dans Paris parce qu'il y avait le corps d'une femme adultère qui l'avait attiré parce qu'il n'avait pas été enterré. Et en fait, cette histoire, c'est le reflet de la condamnation du roi de France qui avait enlevé une nonne et qui l'avait épousée, alors qu'il avait déjà plusieurs autres épouses, et que l'évêque de Paris l'avait excommuniée. Et ce qui n'était pas rien, si vous voulez, d'excommunier le roi, même quand on est évêque de Paris. Et en quelque sorte, pour faire passer le message, l'évêque de Paris, Germain, Saint-Germain de Paris, avait commandé à un de ses amis l'écriture de cette vie de saint. Donc cette vie de saint, c'est une histoire codée qui raconte la condamnation du roi, qui en fait est en quelque sorte le dragon.
Ah ouais.
Et qu'on va bannir par l'excommunication. Donc là, il y a effectivement des codes qui sont des codes politiques. Voilà.
Est-ce que c'est facile quand il y a justement les vides saints, quand il y a une imagerie particulière, est-ce que c'est facile de s'en détacher ou est-ce que c'est un poids? C'est toujours un petit peu la question quand on utilise un archétype comme ça et quand on est écrivain. Pour imaginer ses propres dragons, est-ce que finalement on se réfère à une norme ou est-ce qu'on l'oublie complètement pour inventer autre chose?
I do both, actually, because on the one hand, I have an academic background in mythology, and so I love that kind of thing. I love to make use of it. The second book in the Onyx Court series, actually, which is just now being published in French, has a different kind of dragon in it, completely unlike the ones in the memoirs, because one of the events in the book, it's historical fantasy, there was the Great Fire of London, which burned most of the city to the ground. And in, like, alchemy, you have the creature, the salamander, that symbolizes the element of fire. So I decided that clearly, if I have a bunch of fairy things going on in London and there's this giant fire, what happens is it starts out as this little salamander and grows into this huge dragon that is the fire itself. It's not like there is a dragon attacking London and the city is on fire. It's that the fire itself is the dragon, which was a lot of fun to write. And with the memoirs, when my main character goes to the kind of equivalent of China, I drew a lot of the dragon types there from the East Asian dragon folklore. Some of my things are based on the European type. But I also really enjoyed saying, okay, general idea of a dragon. Now I'm in, like, West African savanna. What would a dragon in that environment look like? And then I was looking at cheetahs and seeing how do they hunt, how do they behave. Okay, let me basically make a dragon that behaves like a cheetah and has acid spit. Like, just because, why not? And some of my inspirations were actually taken from what we know about different kinds of dinosaurs. So I was taking inspiration both from the mythology and from the natural world, which I really liked doing because I felt that it helped me get the kind of variety I thought that world should have. If I was going to say that there were dragons all around the world, they shouldn't all be the same kind of dragon. I wanted them to be different in the way that real creatures are very different. So I was pulling on both sides of that.
Alors, un peu des deux. Alors déjà, moi, j'ai fait des études de mythologie et ça m'a beaucoup inspirée. Donc, par exemple, dans le deuxième roman de la série La Cour d'Onyx, qui va bientôt sortir, j'ai créé un dragon un peu différent. Donc, La Cour d'Onyx, c'est de la fantasy historique. Et donc, dans ce deuxième roman, il y a le grand feu de Londres qui a pratiquement rasé la ville de Londres. Et je me suis dit, comme la salamandre représente le feu, et que là, donc, il y a des fées qui interfèrent avec le monde des humains, je me suis dit, pourquoi pas, au début, ça commencerait par une petite salamandre qui se transformerait en un énorme dragon. Et le dragon, en fait, c'est le feu lui-même. C'est-à-dire que c'est pas un dragon qui va attaquer la ville de Londres. Le dragon, c'est le feu lui-même. Et je me suis déjà beaucoup amusée avec ça. Après, dans la série des mémoires de Lady Trent, il y a un moment où elle se rend dans un pays qui ressemble un peu à la Chine. Du coup, je me suis un peu plus inspirée du folklore asiatique. Il y a d'autres dragons qui sont plus inspirés du folklore européen. Après, elle se rend également sur la côte ouest de l'Afrique. Et là, je me suis dit, dans une savane, et je me suis dit, à quoi pourrait ressembler un dragon là-bas? Alors peut-être quelque chose qui ressemblerait plus, par exemple, à un léopard. Et du coup, je me suis plus inspirée des animaux de la savane en Afrique pour créer un autre dragon, mais que là, pour le coup, j'avais vraiment créé toute pièce. Donc je me suis également inspirée parfois des dinosaures. Donc je me suis vraiment inspirée à la fois de la mythologie et de la nature pour créer mes dragons, parce que je me disais que s'il y avait plein de sortes de dragons différents à travers le monde, ils étaient forcément tous différents les uns des autres. Et du coup, je me suis inspirée et de la mythologie et de la nature pour avoir une plus grande variété de dragons.
Même question pour Karina et Jean-Luc. Le poids de la représentation et de l'imagerie.
Il est là certainement. Les dragons que je décris, ils ressemblent aux dragons de l'imagerie de base. La créature avec les ailes qui crache du feu, les ailes un peu de chauve-souris, la queue, l'espèce d'épine dorsale comme ça et tout. Donc oui, je m'en inspire. Il y a aussi des dragons qui ressemblent à des dragons asiatiques dans l'histoire. Donc c'est vrai que l'imagerie, elle pèse. Et, et, Et je pense aussi qu'en jeunesse, elle est importante parce que quand les enfants ils voient la couverture et il y a le dragon dessus, tout de suite, ils savent que c'est un dragon. Il n'y a même pas besoin de savoir lire presque pour savoir que c'est un dragon parce qu'elle est vraiment, elle fait partie de la culture tellement implantée en nous, cette image du dragon, que c'est, voilà, je le vois avec les enfants. Quand ils aiment les dragons, ils voient la couverture, c'est « Ah, c'est une histoire de dragon », tout de suite. Et je pense qu'effectivement, quand on s'adresse aux jeunes, c'est, le visuel et toute cette mythologie est importante. Mais après, l'intérêt, c'est de s'en libérer et de créer ses propres dragons avec leurs spécificités et s'amuser avec ça en gardant des petits traits de dragons qu'on a croisés dans d'autres choses ou de la mythologie ou, et en allant plus loin, en mélangeant les choses et de créer son propre bestiaire au final pour, au gré de nos envies et de nos besoins dans l'histoire. C'est ça qui est pratique. Ils ont dit, bon, là, j'aurais besoin d'un dragon qui fait ça. Ouais, bah ok, alors on va l'imaginer. C'est commode de pouvoir se détacher et de créer sa propre créature. Mais c'est vrai qu'il y a forcément un mélange des deux. On a une image du dragon qui est implantée, qui est là. Et un dragon, quand on ferme les yeux, on le voit d'une certaine manière, c'est le dragon. Donc je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde.
Jean-Luc, pareil.
Merci. Le dragon, il est effectivement extrêmement prégnant dans l'imaginaire collectif. Il n'empêche que, en fonction de la sensibilité de chacun, on va en donner une nouvelle lecture. Heureusement, de toute façon, je me sens libre de créer tous les dragons que je veux, tant que j'aurai pas quelqu'un qui a eu la chance d'en croiser un vraiment et qui est toujours vivant pour le raconter. Ça me laisse de la marge. Non, je pense que le dragon, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il est présent dans la tête de chacun et chacun se l'est approprié. À partir de là, c'est les figures libres et les figures imposées. Mais c'est comme en musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on a vite fait le tour et pourtant on a fait des millions de morceaux avec. Chacun en fonction de sa sensibilité. Là où on fait un métier formidable, c'est qu'on a une créature, j'allais dire, presque malléable à volonté, et qu'en fonction des besoins, des envies et de ce qu'on a, des sentiments qu'on a envie de générer chez le lecteur, on va être le maître du dragon et le plier à nos désirs.
Anne, qu'est-ce que ça vous inspire, la persistance de Smith, vous qui travaillez sur le dragon dans La Vie des Saints?
Bah, ce qui est assez intéressant aussi, pour revenir à Saint-Georges, c'est la position de Georges à l'égard du dragon, c'est-à-dire c'est le dragon en soi, bon, c'est un dragon qu'il va falloir tuer, mais c'est aussi la façon dont on va positionner Saint-Georges par rapport à ce dragon, c'est-à-dire le représenter suivant la demande du public, ou bien comme étant le vainqueur du dragon, bon, voilà, c'est fini, le dragon est vaincu, ou bien véritablement en combattant. C'est-à-dire qu'il y a, à l'époque, essentiellement autour de XIIe, une idéologie, disons, guerrière, qui va demander une reconnaissance sociale, et donc la bagarre, effectivement, entre Saint-Georges et le dragon, va être mise en scène pour valoriser le chevalier. Et parce que Saint-Georges est le prototype du chevalier. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est le dragon, de toute façon c'est une créature imaginaire, donc à la limite il est intéressant, mais il n'est pas intéressant parce qu'il n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'homme qui est en face de lui. D'accord. Voilà, je pense que c'est...
Donc le dragon, encore une fois, comme révélateur, voilà. Des héros. Vous avez tous écrit sur les dragons, ils vous fascinent, est-ce qu'ils vous hantent au point d'avoir envie d'y revenir? Alors Marie-Brennan, vous êtes dedans, vous. Mais peut-être Karina, commençons par toi.
Hantée, je ne veux pas dire ça, hein, j'en rêve pas toutes les nuits non plus. Mais c'est vrai que c'est un thème que j'aime bien. Et là, j'ai une idée qui est en train de naître avec aussi une histoire de dragon qui serait vraiment très différente. Et là, plus du tout pour la jeunesse comme je l'écris là. Mais voilà, comme il disait, il est tellement malléable que je crois qu'on pourrait écrire des millions d'histoires et il n'y aurait pas un dragon qui ressemble à l'autre. Mais c'est vrai que c'est une créature qui me fascine depuis toujours, donc pouvoir le rencontrer sous ses différentes formes et à travers différentes histoires, différentes possibilités, c'est décliner un thème d'imaginaire vraiment riche et qui a pas atteint loin de là de ses limites. Donc pourquoi se priver finalement, puisqu'on a toutes ces possibilités qui s'offrent à nous.
Marie.
None of the things that I'm preparing to write right now really feature dragons, but I wouldn't be surprised if they come back. I do have one short story that I have published and a couple of others that I need to revise and sell that all take place in a setting which I based very much on the folklore of Central America, basically taking all of the different kinds of creatures I was finding in that folklore and making a world where those are all that exist, that there are no human beings. And one of those is the feathered serpent that you find in Mayan and Aztec folklore. And I have them sort of as the ruling class of this society because they're associated with one of the chief gods of the mythology. So, like, that both is and is not a dragon. It sort of shows how we have these dragon-like ideas around the world, but some of them get further away from, like you were saying, that image that we all have in our head. Feathered serpent is a bit further away, but it's still kind of dragon-like, and I want to do more with that setting. So that will come up. I'm sure future things I do will call for some large serpentine-type thing at one point or another, but at the moment there's nothing currently planned.
Alors en ce moment, tout ce que j'écris, il n'y a pas de dragon dedans, mais franchement, je ne serais pas surprise que les dragons réapparaissent dans mes écrits à l'avenir. Il y a une nouvelle que j'ai publiée et d'autres que j'ai écrites mais qui ne sont pas encore publiées, où je me concentre sur le folklore de l'Amérique centrale. Où en fait je parle d'un monde où seules les créatures de ce folklore existent, mais il n'y a pas d'être humain. Et donc il y a notamment le serpent à plumes de la culture aztèque qui du coup se retrouve un peu à la tête de la société parce qu'il est lié au dieu de la mythologie. Et je me suis dit, voilà, le serpent à plumes, certes, est peut-être un peu différent quand même d'un dragon, mais il y a quand même un aspect, enfin, ça se ressemble un petit peu. Et donc, je pense que vraiment, à l'avenir, il y aura d'autres gros animaux comme ça. Mais pour l'instant, ce que j'écris en ce moment, il n'y a pas de dragon.
Et toi, Jean-Luc, tu vas y revenir ?
Oui, alors moi, j'ai donc démarré par le jeu de rôle, j'ai beaucoup parlé de dragons. L'un de mes premiers succès, ça a été avec la trilogie chez Bayard. Et le monde de l'édition est ainsi fait que quand tu commences à avoir un succès avec un thème, on vient te chercher. Donc pendant 5 ou 6 ans, j'ai fait des albums jeunesse pour les moyens, j'ai fait des albums jeunesse pour les petits, on m'a commandé des séries de romans sur les dragons, et à la fin, c'est Casterman qui m'a demandé une encyclopédie sur la question. Il devait être persuadé que j'avais un élevage dans le grenier, ou je sais pas. Et donc je me suis dit, bon, on va faire une pause parce que Monsieur Dragon, ça va 2 minutes. Et en fait, on s'attache vite, quoi. Ça vous manque, ces petites bêtes-là. Donc là, oui, je voyais pas de sens à ressortir la trilogie, sauf à en faire un quatrième inédit. Il y a un jeune gars qui s'appelle Jérémy Rueff qui m'a contacté, qui veut qu'on retravaille sur Hurlement et qu'on repense le jeu de rôle, mais en développant le côté littéraire, en écrivant des nouvelles inédites, des romans autour de l'univers. Ouais, je n'irai pas dire jusqu'à... J'emploierai pas le terme de ça me hante, mais ouais, mais ça me manque, oui, bien sûr. Ça démange en permanence. C'est formidable, parce que c'est tellement ouvert, c'est tellement incroyable comme univers qu'on peut qu'avoir envie d'y foncer, quoi.
Très bien. Vivement cette suite. Qu'est-ce que je voulais dire il nous reste 10 minutes. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou peut-être un dragon qui vous a marqué? Quelque chose à voir avec ces bêtes-là, ou peut-être connaître leur régime alimentaire, je ne sais pas. Vous avez 4 spécialistes, hein, c'est l'occasion. Si on peut éviter de parler d'accouplement tout de suite, mais par contre, pour le régime alimentaire, c'est possible. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Compte tenu de mon gabarit, si on pouvait éviter d'aborder le régime alimentaire, ça...
Personne. Alors, avant de remercier nos auteurs, je laisse la parole à Jean-Luc pour une minute d'information
syndicale. Je ne voulais pas plomber l'ambiance tout de suite, mais j'ai juré à mes camarades auteurs qui sont réunis quelque part sous la pluie et sur la pelouse en train de parler de nos difficultés. Vous avez peut-être entendu parler du mouvement Pétons d'auteurs qui a été généré au Salon de Paris. Il y a eu un petit bis-bis ce matin, on avait une table ronde à ce sujet. J'ai promis d'en parler, mais je ne voyais pas... Alors, première chose, histoire que ce soit dit, c'est ma deuxième table ronde ici, je ne serai donc pas payé pour ça. Voilà, je ne suis pas en train de pleurer misère, je suis ravi que vous soyez venus nombreux. Je suis ravi d'avoir rencontré mes camarades et qu'on ait pu parler d'un sujet qui me passionne et qui j'espère vous a passionné. Je voulais juste en parler. Maintenant, j'ai trouvé un truc hein, pour ne pas paraître trop lourd comme ça et trop en dehors du sujet. Je vous rappelle que les dragons, dans l'inconscient collectif, dorment sur des paquets de monstrueux trésors. Donc finir là-dessus en parlant un peu de pognon pour les auteurs, ça me paraissait pas trop mal.
Voilà, merci à nos invités. Vous pouvez les retrouver tout de suite en dédicace. Merci à vous.